dans cette espèce de drôle de situation. D'après Rashi, cette parasha, comme la parasha de Trouma, il faut la transposer, la transporter après Kitissa. La parasha là, qui vient après, vous savez, c'est Kitissa. Mais Kitissa, c'est la parasha dans laquelle il y a le veau d'or. Et donc, d'après Rashi, les instructions concernant le Mishkan, qui sont dans Trouma, et concernant les vêtements des Kohanim, qui sont dans Tetzaveh, elles ont été données après le veau d'or, comme une espèce de réponse à la nécessité pour les Bnei Israël d'avoir un support plus matériel, de sortir de cette situation d'extrême abstraction, si vous voulez, d'avoir quelque chose d'un peu plus concret. Par contre, pour Ramban, il faut dire que voilà, ça a été dit, le Mishkan les instructions du Mishkan ont été dites avant le veau d'or. Ces instructions du Mishkan, on ne sait pas pour quand elles ont été dites, au moment où elles ont été dites. Et puis, on peut penser que peut-être le veau d'or a précipité la réalisation de ces mitzvot, de ce Mishkan, ou pas, ça, on ne peut pas le savoir. Le Mishkan pour Ramban, je vous ai dit déjà, le Mishkan pour Ramban, c'est en fait un espèce de Sinaï portatif, parce que le Sinaï, c'est le moment où Hachem est entré en contact maximal avec les Bnei Israël. Et donc, la présence d'Hachem dans le Mishkan va refabriquer ce contact aussi direct que possible entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. Dans cette lecture du Ramban, on aura par exemple une petite difficulté. Étant donné que dans la parasha de la Trouma, par exemple, on avait reçu l'ordre de fabriquer, Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de fabriquer, de faire fabriquer l'Aron HaKodesh. Et dans le verset qui parle du Aron HaKodesh, le pasouk dit. Alors, tu fabriqueras le couvercle de cette boîte avec les crouvimes, etc. Et dans cette boîte-là, tu mettras les tables que je te donnerai. Alors, c'est un peu pourquoi je te donnerai. Après ça, pour un ban, on s'est déjà donné maintenant, quoi. Donc, ça va plutôt dans le sens de Rashi. Ce verset-là, plus dans le sens de Rashi. Et bon, disons, pour un ban, encore une fois, le Mishkan, c'était quelque chose, une espèce de la même qu'il y a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, on n'a pas, pour se souvenir du Sinaï, on n'a pas, on s'est pas contenté d'un souvenir comme le souvenir de la sortie d'Égypte ou en parole, qu'on soit dans le troisième paragraphe du Shema, on mentionne la sortie d'Égypte. Et si on dit le matin le Shema et le soir le matin aussi le Shema, avec le troisième paragraphe, donc, alors tous les jours on la mentionnait, et puis une fois par an, il y a la Seder où on est censé se remettre dans la situation où on était au moment de la sortie d'Égypte. Et pour le Sinaï, qui est aussi un événement ou un moment dont on doit se rappeler, on comprend bien que c'est tellement important qu'il faille s'en rappeler. Alors d'après Ramban, on s'en rappelle avec le Mishkan. C'est-à-dire, en fait, c'est un rappel double, puisque je vous rappelle que la présence d'Hachem dans le clan d'Israël, c'est une présence dans le cœur de chacun. On s'était demandé, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait un Mishkan en dehors, au milieu du camp, alors que ce qu'Hachem veut, c'est qu'il y ait une présence dans le cœur de chacun. Alors pourquoi fabriquer cette tente d'assignation, comme on dit, ce Mishkan? C'est une espèce de pense-bête, quoi, une espèce de une aide qui nous est donnée concrètement pour ça va peut-être dans le sens de, effectivement, il faut donner au Bnei Israël quelque chose de d'un peu plus concret que de dire il faut que ce soit dans votre cœur. On a besoin de cette relation. Alors, qui n'est pas une relation comme celle des idolâtres, avec leurs idoles, mais où il y a quelque chose quand même de plus concret que l'abstraction, il faut qu'il réside dans vos cœurs. Maintenant, on peut se demander pourquoi la confection des vêtements, des Kohanim, est si fondamentale, quoi, qu'elle est présentée au même titre que la construction du Mishkan. Alors, en réalité, ça veut dire quoi de fabriquer des vêtements pour un Kohen? Il faut que vous sachiez que un Kohen, Monsieur Kohen qui ferait la Avoda sans avoir mis ses vêtements spécifiques, c'est comme s'il était Israël. Donc la Avoda, elle n'est pas cachère. C'est raté. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est que les vêtements ne sont pas seulement ce que sont en général des vêtements, quelque chose pour se protéger du chaud ou du froid, pour se présenter, etc. Mais c'est une partie fondamentale, en quelque sorte. C'est comme une deuxième peau. Et c'est tellement comme une deuxième peau que il y a un issour de chassissa. C'est-à-dire qu'en fait, si, vous savez, les korbanot qu'on va apporter au Mishkan, au Beth Amikdash, c'est en plein air. Et en hiver, en plein air, à pieds nus sur le sol du Beth Amikdash, on pourrait penser, on aurait pu s'arranger avec Damar pour qu'il fabrique des thermolactiles spéciales Beth Amikdash, mais ça marche pas parce que ça s'appelle Khatsitsa. Il ne doit rien y avoir entre le vêtement et la peau du Kohen. Rien. Et c'est des vêtements en lin, pas pour les Kohanim, c'est pas spécialement chaud. Je disais que là, on peut dire, la plupart du temps, en Eretz Israël, il fait chaud, donc c'est bien d'avoir quelque chose de rafraîchissant, mais quand il fait froid, il fait bien froid. Et donc, on ne peut pas mettre non plus un pull par-dessus les vêtements. Ben, ce n'est pas un problème de chassidsa, mais c'est qu'on aurait plus de vêtements que les quatre vêtements qui sont les vêtements classiques de service, en quelque sorte, pour un Kohen ordinaire. Et donc les vêtements, c'est si un Kohen n'a pas ses vêtements de Kohen sur lui, il n'est pas Kohen. Alors c'est pas que le vêtement que l'habit fait le moine, parce que si Monsieur Israël met un vêtement de Kohen, il n'en devient pas Kohen pour autant. Mais l'absence de vêtements défait le Kohen. Cette paracha de Tetzaveh, elle a encore une autre caractéristique, c'est que depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, toutes les parachiotes qui parlent après la naissance de Moshe Rabbeinu contiennent le nom de Moshe, sauf celle-là. Dans la paracha de Tetzaveh, le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas. Alors, une réponse classique qu'on donne, c'est que quand les Bnei Israël, justement, ça aussi c'est une question, quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Hachem a décidé, il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais en commencer à nouveau avec toi. On a déjà vu plusieurs fois que Moshe Rabbeinu a dit qu'il n'en est pas question, que lui n'était pas candidat et que si, il a dit à Hachem, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface-moi de ton livre. Alors, Hachem a pardonné, mais Hachem a quand même effacé Moshe Rabbeinu, pas complètement du livre, mais il y a eu dans la paracha Tetzaveh, dans cette paracha-là, le nom de Moshe ne figure pas. Le nom de Moshe a été effacé du livre à cet endroit-là. Là aussi, vous voyez que ce raisonnement-là, il ne marche pas bien pour le Ramban. Bon, parce que la parasha Tetzaveh, elle est avant le veau d'or. Donc, si la phrase de Moshe Rabbeinu a été prononcée après le veau d'or, elle ne peut pas justifier que dans Tetzaveh, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il y a d'autres explications, entre autres. Une explication un peu enfin, de genre complètement différent, qui est que la semaine où on lit Parshat Tetzaveh, c'est toujours la semaine dans laquelle tombe le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est le Yahrzeit de Moshe Rabbeinu. En fait, c'est aussi le jour de sa naissance, parce que Moshe Rabbeinu est Niftar le même jour qu'il est né, après 120 ans. Et donc toutes les années, si vous voulez, étant donné que tout ce qui se passe dans le monde se passe d'abord dans la Torah, d'une certaine manière, alors l'effacement de Moshe, la mort de Moshe, si vous voulez, elle se dit dans le texte de Tetzaveh qu'il est mort, enfin il n'est plus là, il n'est plus dans le texte de la Torah. Alors c'est vrai toutes les années, sauf les années où on a un 13e mois. Mais à ce moment-là, il y a toujours ce même problème, c'est que le Yahrzeit, on va le faire le Adar Sheni, et la naissance qui a eu lieu avant tout, elle était le Adar Rishon. Enfin, en général, c'est toujours dans la semaine où on lit Tetzaveh. Donc, il y a absence du nom de Moshe, mais par contre, le nom qu'on trouve très, très, très fréquemment dans la paracha de Tetzaveh, c'est celui d'Aaron. On n'arrête pas de citer Aaron, Aaron pour Aaron, les vêtements pour Aaron, etc. Et ça, bon, c'est un fait, c'est d'autant plus parlant qu'il y a zéro occurrence de Moshe et beaucoup d'occurrences, je ne vais pas compter, d'Aaron. Mais d'un autre côté, la paracha, elle commence par une drôle d'expression, Ve'ata tetzaveh, qu'on traduit par quant à toi, ordonne. Alors, quand on dit quant à toi, ça veut dire qu'avant, on parlait d'autre chose, et puis maintenant, on dit quant à toi. Mais avant, on parlait que de Moshe Rabbeinu. La paracha de Truma, c'est tout. C'est Hachem qui parle à Moshe et qui lui dit de faire, mais en fait, comme il est roi, on lui dit de, tu vas pas faire toi-même, tu vas faire, faire. Donc on parle que de Moshe. Alors le conte à toi, il est complètement incompréhensible. Et puis en plus, le verbe qui est utilisé ici, c'est ordonne, comme si c'était Moshe qui allait ordonner. Jusqu'à présent, c'était toujours Hachem qui ordonne et dit à Moshe, répercute ce que j'ai dit. Mais c'est, tandis que là, c'est comme si c'était Moshe qui était là le législateur sur ce point-là, alors que partout ailleurs, c'est toujours Hachem. C'est donc une question supplémentaire. Et puis, les mots d'après, c'est Ve'ata tetzaveh et bnei Israël. Tu vas ordonner au bnei Israël quoi? Vi'ikru elecha shemen zayit zar katit la maor le'alot ner tamid. Ils vont y prendront. D'abord, il faudra voir qu'est-ce que c'est que ce futur. Mais surtout, elecha. Pourquoi est-ce qu'il faut amener l'huile d'olive à Moshe Rabbeinu? Alors, comme vous savez probablement, dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'oliviers. Donc, la question est évidemment de savoir d'où est-ce qu'ils ont cette huile d'olive. Alors, une des réponses, la réponse standard, c'est qu'ils l'ont prise en Égypte. Ils l'ont prise avec eux. Qu'est-ce qui va se passer quand ça sera épuisé? On n'en sait pas. Mais bon, cette huile d'olive, elle est tout à fait particulière parce que c'est marqué qu'elle doit être Zar Tatit Lamaor Naalot Ner Tamit. Cette huile, c'est l'huile avec laquelle on va allumer la menorah, c'est le combustible qu'on utilise pour allumer la menorah. Alors, vous vous rappelez, dans le Mishkan, il y a une partie qui s'appelle Kodesh et Kodashim, partie dans laquelle il n'y a que le Aaron. Le Aaron et son couvercle avec les Kérouvim, etc. C'est de cet endroit-là que semblera venir la voix que Moshe va entendre. Lui va entendre, lui va pas être de ce côté-là, mon cher Abel, mais il va entendre ça de là-bas. Et il y a un rideau qui sépare le Kodesh HaKodashim du reste du Mishkan, puis du Beth Amikdash. Et de l'autre côté du rideau, donc, immédiatement, ce qu'on trouve, c'est de part et d'autre du rideau. C'est-à-dire dans les deux côtés du long du rideau, il y a d'un côté la menorah et de l'autre côté le shulchan. Sur d'un côté, il y a la menorah qui va rayonner la lumière, donc la Torah, etc. Et de l'autre côté, il y a le shulchan sur lequel il y aura les fameux 12 pains qu'on met chaque Shabbat et on change tous les Shabbatot. Et ces pains-là, quand on les change, ils sont mangés par les Kohanim et ils sont chauds et frais comme au premier jour. Donc c'est un délicieux qui se passe avec les pains qu'on met sur le shofar. Les pains, c'est les pains qui sont restés là sur la table pendant une semaine. Et ils sont encore chauds et frais comme ils l'étaient quand on les a déposés. Et donc d'un côté, le shofar, ça représente la parnassa. Ça représente le côté matériel, la nourriture. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on prie, nous, on se tourne en direction de Yerushalayim. À Yerushalayim, on se tourne en direction du Beth Amikdash. On se tourne du côté de Yerushalayim. Disons, on appelle ça l'Est. Bon, ici en France, c'est pas vraiment l'Est. Mais on se tourne dans cette direction-là. Et la Gemara, elle dit, que si tu veux prier sur la Chorma, pour qu'Hachem te donne plus de Chorma, il faut te décaler un peu vers la droite, c'est-à-dire du côté de la menorah. Si tu veux prier pour la Parnassa, il faut te décaler un peu vers la gauche, du côté du Shulchan qui est pour la Parnassa. Alors, je reviens à la question. C'est quoi l'idée de d'amener cette huile? Cette huile dont on a vérifié qu'elle est qui doit être absolument pure. Et alors, on veut pas qu'elle soit pure parce qu'elle a été filtrée. Elle doit être pure dès le départ, cette huile-là. C'est la raison pour laquelle, pour cette huile pour la menorah, l'huile qu'on utilise, c'est l'huile de première pression, mais pas au sens habituel. C'est où on prend que les premières gouttes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de scorie, qui en plus, il n'y a pas de morceau d'olive, de quelconque manière. D'accord? Il n'y a que les premières gouttes. On aura besoin d'une autre huile d'olive pour les menachot. Les menachot, les fameuses crêpes qu'on fait avec de la farine et de l'huile. L'huile en question, c'est de nouveau de l'huile d'olive. Mais là-bas, pour cette huile d'olive-là, on n'a pas l'exigence qu'on a pour l'huile de la menorah. Elle doit être bien sûr filtrée, ce qu'on veut, mais c'est filtré, c'est pas seulement les premières gouttes. Les premières gouttes, c'est pour la lumière, les maor, pour la menorah. Et alors le Ramban dit, sans expliquer plus avant, il dit que la raison pour laquelle on amène cette huile à Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu vérifie que cette huile est bien parfaitement pure, etc. Alors, comme le dit le Hamec Davar, le responsable de la qualité des produits utilisés dans le Mishkan, il peut très bien faire ça. On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu pour qu'est-ce qu'on a besoin de Moshe Rabbeinu? Surtout qu'on ne voit pas la raison. Donc on n'a pas vraiment de bonne raison pour expliquer pourquoi c'est à lui qu'on va apporter ça. On devrait dire il faut l'amener au responsable, au Gizbar, au trésorier de Hegdesh, celui qui gère tout ce qui appartient à Hegdesh. Donc il n'y a pas vrai. Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas de bonnes raisons sur cette exigence que ce soit à Moshe Rabbeinu qu'on amène l'huile. Sauf si on le lit à un tout autre niveau, c'est ce que fait l'Amec Davar, et qui dit, cette huile-là, c'est l'huile qui va pour la menorah. La menorah, c'est la lumière, c'est la Torah. Et donc, ça vient chez Moshe, parce que Moshe Rabbeinu est celui qui est le fournisseur de la Torah, celui par lequel les Bnei Israël entendent la Torah. Bon, et c'est pour ça que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah, elle vient de Moshe Rabbeinu.
Sur place, il
Oui, c'est ça ce que tu viens de dire. C'est ce que donc l'Amec Davar, il dit, mais putain, mais d'abord, il dit pas où, le Ramban ne dit pas d'où il a pris ça. Et puis d'autre part, ce que je vous dis, normalement, c'est le gestionnaire des produits utilisés dans le Mishkan qui devrait vérifier ça. On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu pour faire ça. Moshe Rabbeinu, c'est le roi. Alors, a priori, ce n'est pas le roi qui vérifie la qualité des produits. Au premier verset du chapitre suivant, du Kafret, Ve'ata, de nouveau un Ve'ata. Le Ve'ata, il va apparaître trois fois. De nouveau, quant à toi, on parle que de lui, mais c'est une drôle d'expression, ce quant à toi, là. Akrevelecha, de nouveau la même chose. Rapproche de toi, Et Aaron Achicha, Ved Banavito, Aaron ton frère, ses fils avec lui, Tu les rapproches de toi, eux qui, par ailleurs, appartiennent à l'ensemble du clan Israël, le Hanoli, pour qu'ils puissent me servir, c'est-à-dire pour qu'ils puissent devenir mes Kohanim. Et la liste, voilà, c'est Aaron, et puis ses quatre fils, Nadab v'Abihu, Elazar v'Ithamar, Bnei Aaron. On répète là, de nouveau Bnei Aaron, je ne sais pas trop bien pourquoi. Je veux dire, a priori dans le texte, on ne voit pas la nécessité de répéter ici de nouveau Bnei Aaron une nouvelle fois. Alors, il y a encore une remarque sur cette, j'ai oublié de faire, sur cette huile. Elle va servir à la menorah. Et la menorah, elle est présentée comme sur le premier verset. Vikruelech Hashem el Zaitzah, Tatit la Maor, la Lotner, Tamid. Tamid, ça veut dire toujours. Rashi, sur Tamid, Rashi dit, Tamid, c'est kol laïla velaïla, karoui Tamid. De même qu'on va dire olat Tamid, pour le korban Tamid, et ce sera deux fois par jour. Ça sera seulement donc miyom le yom. Même chose pour Minchat Ravitin. Et on aura encore pire, les pains qui sont sur la table Tamid, on va les changer de Shabbat en Shabbat. Alors donc le chidouche ici, c'est que Tamid, normalement c'est continu, et tous les exemples que donne Rashi, en particulier ce sera vrai pour la menorah, parce que la menorah, Aaron, qui est le Kohen Gadol, va allumer tous les soirs la menorah, qui va brûler, mais peut-être c'est un peu corrigé, mais Erev Ad Boker. Elle va devoir brûler du soir au matin, mais durant la journée, ça brûle pas. Pourtant, ça s'appelle quand même tamid. Donc, on voit que tamid, ce n'est pas obligatoirement continu, mais ça veut dire simplement régulièrement dans le temps. Bon, je reviens sur l'ordre qu'Hachem a donné à Moshe de rapprocher à Aaron. Rapproche-le de toi. Lui, et pourquoi tu vas le rapprocher? Ve'asita vigde kodesh la'aron achicha. Tu feras des vêtements kodesh. C'est-à-dire, en fait, pas des vêtements sacrés, mais des vêtements qui vont servir au sacré. Ils vont servir au service sacré que Aaron, ton frère, va faire. Et ces vêtements-là, en plus d'être Bigdei Kodesh, c'est-à-dire, bon, on pourrait dire, c'est presque des vêtements de travail pour Kohanim, quoi. Mais ces vêtements doivent être le Kravod ou le Tifaret. Kavod et Tifaret. C'est donc des vêtements. Kavod, c'est la gloire. Tifaret, c'est la splendeur. Avolbeidi Kavod, c'est dans l'Olamazé, et Tiferet, c'est hors du Olamazé. D'habitude, c'est comme ça qu'on. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Aaron doit avoir des vêtements splendides, en fait. On a inauguré le Mishkan. Que, bon, on a monté le Mishkan selon les plans. Bon, ça va être, on va en parler dans il y a quelques coudées, quoi. Le Mishkan a été finalement monté avec mille mobiliers, etc. Et on a inauguré le Mishkan. Et l'inauguration du Mishkan a duré 7 jours. Pendant 7 jours, on a inauguré. Et inaugurer, ça veut dire on commence à faire marcher le système. On met en marche le système, on le met sur les rails. Et évidemment, ça donne lieu à une fête. Lors de cette fête, on a fait fonctionner le Mishkan. Mais le Mishkan, il ne fonctionne qu'avec un homme qui fait le travail. Au moins, celui qui fait le travail à l'inauguration, au moment de l'inauguration, c'est le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, pendant les 7 jours en question, c'est Moshe Rabbeinu. On a déjà dit que c'est Moshe Rabbeinu est le Kohen Gadol de service pendant toute cette semaine. Première semaine. Mais lui, Moshe, par exemple, il n'a pas besoin de vêtements d'apparat. Le vêtement de Kohen Gadol, le Chavod de Tifaretz, il faut les faire pour Aaron, mais pas pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, fonctionnait avec des vêtements de Kohen ordinaire. Vêtements en lin de Cohen ordinaire. Pour quelle raison est-ce que le Cohen Gadol doit avoir des vêtements exceptionnels? C'était pour que les vêtements, les vêtements donnent une splendeur, qu'il apparaisse dans toute sa splendeur. Le Kohen Gadol, c'était une vision extraordinaire, un peu comme on le chante à Kippour, Maré Cohen, quand on chante Maré Cohen. Bon, c'est extraordinaire. Il fallait vraiment impressionner ceux qui le voyaient, pour qu'ils se rendent compte. La Kedusha, ça veut dire, Kadosh, ça veut dire être séparé. Il faut, s'il apparaît habillé comme tout le monde, le Kohen, alors plus forte raison le Kohen Gadol, ben, les gens verront pas ce qu'ils doivent voir. Il faut les aider à voir la grandeur du rôle que joue le Kohen Gadol. Et les vêtements, donc, servent à ça. Mais mon cher Rabbeinu, il avait un tel rayonnement, il n'avait pas besoin de vêtements pour que les gens le reconnaissent qu'il joue un rôle particulier. Mais Aaron, même si Aaron était très très grand, il était quasiment l'alter ego de mon cher Rabbeinu, dans d'autres domaines, mais à la même degré probablement de Kedusha, c'est comme ça que le Mec d'Avar pense. Il avait néanmoins besoin de vêtements pour assurer son rôle de Kohen Gadol. Et dans cette optique-là, La fabrication des vêtements en question. Les vêtements que vont devoir faire, c'est marqué. Donc, on nous donne dans le Passouk d'Alet la liste des vêtements. Et puis ensuite, on nous dit comment on les fabrique. Alors, vous avez, par exemple, le éphod. Le éphod, c'était Aaron, il avait une tunique et un espèce de manteau qu'on appelle là ils appellent une robe, un mehil. Donc, mehil en général en hébreu c'est un manteau, mais c'était un manteau puisque c'est par-dessus la tunique. Il y avait une tunique, il y avait un caleçon et par-dessus il y avait un manteau. Et sur ce manteau, il y avait ce fameux éphod, une espèce de tablier qui était porté sur le dos et ensuite on le ramenait devant sur le ventre en fait. Mais il est sur les hanches et une partie du ventre. Et cet éphod-là, par exemple ici, ils le décrivent, ils disent que la texture du éphod, c'était obtenue par le tissage de cinq matériaux différents. Il y avait six fibres de laine trélète, d'azur, de laine bleue, une fibre d'or, qui étaient torsadés ensemble pour fabriquer le fil. C'est ça le fil avec lequel on allait tisser. Donc c'est un fil avec sept fibres. Six de laine plus une fibre d'or. Et on faisait de même pour la laine rouge, la pourpre et écarlate, et la même chose pour le lin. Tout était torsadé, etc. Et avec des fils d'or. Puis ensuite, on prenait les quatre fils de ces quatre espèces, là, pourpre, écarlate et lin, et puis la laine azur, ou alors l'or, le cas échéant. Et puis donc, ces quatre fils qui ont chacun sept fibres sont torsadés ensemble pour former un filin de 28 fils. C'est avec ce filin-là qu'on va tisser le éphod. Donc vous voyez, tout y est, vous avez le 4, vous avez le 7, vous avez le 5. Mais les chiffres aussi sont symboliques, ils jouent un rôle important. Et puis, le tissage était particulier parce que il y avait un motif. Quand on a tissé, il y avait un motif d'un côté du tissu et il y avait un vrai motif de l'autre côté. C'était pas les nœuds comme même si vous avez une tapisserie d'Aubusson, elle est magnifique, mais si vous regardez derrière, c'est les nœuds. Bon. Là, c'était pas des nœuds. C'était là aussi un motif. Bon. Alors, il ne faut pas oublier que les artisans en question sont des artisans qui, il y a quelques jours, bon, il y a 50 jours ou un peu plus, ce qu'ils étaient en train de faire, bon, c'est un peu plus quand même, mais quelques mois, disons, ils étaient fabricants de briques. Bon, ce n'est pas obligatoirement le stage pour devenir tisserand ou orfèvre ou tout ce qu'ils doivent savoir faire. Comment ils l'ont fait? Bon, est-ce qu'ils ont pu faire des choses pareilles? Des choses qu'on ne sait même pas si les artisans pourraient aujourd'hui faire une chose pareille, même avant. Alors, ce que dit la Torah, c'est que ces gens-là, ils vont être choisis donc par Hachem sous la direction de Bezalel, etc. Et puis Hachem dit, ben, je vais donner à tous ces gens-là, enfin quelque chose, de telle sorte qu'il faut qu'ils deviennent Chachmei. Et le mot Chachmei, il est un peu compliqué. Qu'est-ce que la Chochma, c'est dans la tête et le Lev, c'est ailleurs. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu doit leur parler. Tu dois parler à ces gens-là. Et tu vas leur dire qu'ils doivent fabriquer des vêtements de Chahanoli pour permettre à Aaron de me servir. Alors il faut qu'ils soient des Chachmelev. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient à la fois de la Chochma et aussi une sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un savoir-faire, mais la Chochma, ça veut dire que ils doivent également comprendre ce qu'ils font. Parce que d'une certaine manière, si les choses ne sont pas faites avec compréhension, elles ne vont pas jouer leur rôle. De quoi on parle ici? On parle de la chose suivante. Les vêtements, bon, c'est les vêtements. Mais chaque vêtement a un rôle à jouer dans le processus de kapara. C'est-à-dire qu'on apporte des korbanot essentiellement pour obtenir une kapara, c'est-à-dire pour nettoyer, pour faire disparaître les traces des fautes qu'on a faites. On a fait des fautes ou on ne s'est pas suffisamment bien concentré, etc. Alors ça nous éloigne d'Hachem. Et donc il faut faire des korbanot pour nous rapprocher, la Lashon Kara, le Kouf Resh Bet, c'est se rapprocher, c'est la racine de rapprochement. Mais maintenant, chaque vêtement n'est pas du tout un vêtement qui a été conçu comme ça pour faire beau seulement. C'est un vêtement qui a une fonction. Et donc, il y a un vêtement qui est, si on peut parler comme ça, le vêtement qui va apporter la caparade sur telle et telle faute, ou sur telle et telle partie du corps, celui-là pour cette autre partie du corps, etc. Et donc, c'est dans la fabrication du vêtement. Il y a une des composantes vont permettre à ce vêtement de jouer son rôle. Ensuite, évidemment, le vêtement tout seul, a priori, il n'est pas efficace. Il y aura un petit problème avec un des vêtements, enfin, une chose, c'est une plaquette d'or, qui s'appelle le tzitz, sur lequel il est écrit Kodesh Lachem. Kadosh pour Hachem, donc, et qui se nouait ici à la racine des cheveux, là, avant le fameux bonnet turban là que le Kohen Gadol portait. Ça, c'est seulement le Kohen Gadol qui portait ça. Et il y a une discussion dans la Gemara sur la question de savoir, est-ce que quand ce tzitz, là, quand il est suspendu à son clou, que ça veut dire quand Aaron ne l'utilise pas, est-ce que il est quand même efficace pour les corbanotes qu'on va apporter sans que ce poids soit porté ce diadème, ce tzitz-là? C'est une discussion. Donc l'important pour nous, c'est qu'on discute. Éventuellement, ça soit même efficace, mais il n'y a que lui. qui serait efficace même quand il n'est pas porté. Mais en général, l'efficacité, elle a lieu par la collaboration, si on peut parler comme ça, des hommes et des vêtements qu'ils portent, donc les Kohanim, ou le Kohen Gadol, et des vêtements qui sont portés. C'est ça qui apporte la kapara en question sur tel ou tel point. La Gemara, elle énonce effectivement sur chaque vêtement à quoi il sert, qu'est-ce qu'il arrange en fait. Et donc, pour que ça marche, il faut que il y ait une kavana, une intention, une compréhension de ce qu'ils font, de ce que font les chachmei lev. C'est pour ça qu'on a besoin de chachamim, parce que sinon on aurait besoin d'artisans seulement. Sinon il aurait simplement fallu les inspirer ou leur apprendre à tisser. Mais on veut pas qu'ils apprennent seulement à tisser. On veut qu'ils sachent que quand ils tissent, ils construisent quelque chose, ils construisent le vêtement avec son efficacité. Alors, il y a un lishma, semble-t-il, là-dedans. Peut-être que ça, la chorma, c'est une forme d'inspiration qu'Hachem a donnée à tous les niveaux. Et il y a une indication un peu étrange dans le texte, quelque chose qui pourrait passer presque comme une faute de grammaire. Évidemment, ce n'en est pas. C'est marqué Ve'ata tedaber el kol chachmei lev. Tu vas parler à tous les sages. C'est le verset Guimel, 3 du 28. Asher mileitiv ruach chokhma. Évidemment, on parle a priori des chachmei lev, c'est un pluriel. Donc ça devrait être écrit, Asher miletim, je les ai remplis d'eux. Alors que ici c'est au singulier, miletiv. Alors l'explication standard, c'est de dire que ça porte sur Aaron, en fait. Et une des explications, je donne par exemple la Megdavar, c'est dire la chose suivante. Il faut que tu parles, tu leur expliques, toi, Moshe, tu vas leur expliquer que Aaron, il est plein de ce rouar de Chochma. Cet esprit de sagesse, ça veut dire que Aaron, quand il va mettre le vêtement que vous avez tissé, il va tout de suite sentir si ce vêtement est apte à jouer le rôle qu'il doit jouer. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas chargé en quelque sorte au moment où vous avez fabriqué le vêtement, ce vêtement-là, de la charge adéquate en fait, Aaron va le sentir. Donc ne vous imaginez pas que c'est pas très important. Ok, c'est bien, c'est un mieux, c'est un plus. Non, c'est pas un plus. Les vêtements sont, comme je dis, c'est une seconde peau, quasi. C'est une partie de l'homme, en fait. Quand on veut, par exemple, purifier des vêtements, on peut pas purifier les vêtements du Kohen, hein, des Kohanim, tout seul. On les purifie en même temps que les hommes qui les portent. C'est-à-dire, c'est le tout. C'est le Kohen dans ses vêtements qui est purifié. Ça purifie en même temps lui et en même temps les vêtements. On ne peut pas purifier pour la Kehuna, on ne peut pas purifier le Kohen séparément, les vêtements séparément. Il faut le purifier en même temps. On les purifie en même temps, on voit bien que c'est une seconde peau. Il y a cette idée-là. Une partie du. Le Cohen, quand il fonctionne, il a. Aujourd'hui, on dirait que c'est un corps augmenté. Est augmenté de ce que les vêtements lui apportent en plus. Je reviens sur le début du verset, du vers du chapitre 28, là, la frette. Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha. Et quant à toi, donc, rapproche Aaron, ton frère, et ses fils. Rapprocher à Aaron. L'idée, c'est tu vas le rapprocher de toi. Mais il sera proche de toi, mais il sera pas vraiment exactement à la même hauteur que toi. Pourquoi ça parle? Ça parle d'une chose qui est assez difficile à comprendre, etc. Lorsqu'Hachem a envoyé Moshe libérer les Bnei Israël, il lui a parlé, c'était au moment du Sné, au moment du buisson ardent. À ce moment-là, Hachem a parlé pour la première fois à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, va libérer les Bnei Israël. Et comme vous savez, Moshe a dit non. Il a dit non parce que il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère. Aaron était tout le temps avec les Bnei Israël. C'est lui qui a soutenu moralement tout le monde dans ces périodes absolument inhumaines, enfin, qu'ils ont dû vivre. Et en plus, c'était son grand frère, parce qu'Aaron est plus âgé que Moshe. Donc Moshe, il s'est dit, moi, je ne peux pas aller maintenant et passer par-dessus mon frère. Il a dit à Hachem, envoie qui tu veux, mais pas moi. Ensuite, il a sorti les arguments, je ne sais pas parler, etc. Bref, ça a duré une semaine. Finalement, Hachem s'est un peu mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, sur le problème de la parole, alors, ok, c'est pas toi qui parleras. Tu dis que tu ne sais pas parler, etc. C'est Aaron qui parlera. Mais toi, tu seras son Dieu, en quelque sorte, et lui sera ton prophète. C'est-à-dire, moi, je te parlerai à toi, toi, tu parleras à Aaron, et Aaron parlera à Pharaon. L'idée étant que la parole de Moshe, étant donné que la bouche de Moshe, c'est la bouche à travers laquelle la parole d'Hachem va passer. Cette bouche-là, elle parle, aujourd'hui, je ne sais pas si je devais dire quelque chose, je dirais, bon, elle parle avec une fréquence qui n'est pas audible pour Paro. Aaron, lui, il comprend ce que Moshe dit. Il est bon, il est sensible à cette. À la bande passante de la fréquence de Moshe, mais Paro non. Et donc, Aaron va être le prophète, c'est-à-dire le haut-parleur de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une chose. Mais surtout, normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû être à la fois Melech, ce qu'il a été, et aussi Kohen Gadol. Ce qu'il a été pendant 7 jours. Mais Hachem lui a dit, le Kohen Gadol, ce sera ton frère. Hachem lui a enlevé la Kehuna. Il dit, Aaron a Achicha à Lévi, il aurait dû être le Lévi et toi le Kohen, c'est lui qui sera le Kohen. Et puis troisièmement, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Donc Moshe sait depuis le début qu'il n'entrera pas en Eretz Israël, sauf que, comme durant leur histoire, le clan d'Israël a très souvent mérité d'être disqualifié. À chaque fois Moshe est intervenu, il a obtenu que Hachem pardonne. Moshe a pensé qu'à lui aussi il lui avait pardonné. Mais il a dû apprendre que non. Lui, on ne lui a pas le droit de prendre. Après, on va expliquer que c'est pas que ce n'est pas qu'une sanction, mais c'est que il est nécessaire pour les Bnei Israël que Moshe n'entre pas tout de suite, mais qu'il entre avec ceux qui allaient entrer en Eretz Israël, dans Kibbutz Galouyot, au temps messianique, ou selon les théories messianiques. Et puis Hachem a expliqué à Moshe que s'il entrait en Eretz Israël, ce serait mauvais pour les Bnei Israël. Une des raisons qu'on donne, c'est qu'il y a deux personnes dans l'histoire juive, en fait, qui, si elles construisent quelque chose, ce qu'elles construisent est indestructible. C'est Moshe et David. Donc, si Moshe ou David avaient construit le Mishkan, enfin le Beth Amikdash, il aurait été indestructible. Et il est fondamental qu'il soit destructible, parce que c'est lui le paratonnerre pour les Bnei Israël. Hachem décide de détruire les Bnei Israël. Au lieu de les détruire eux, il détruit le Beth Amikdash. Donc, si Moshe était entré en Eretz Israël, et donc on aurait construit le Beth Amikdash, mais les Bnei Israël auraient continué de fauter encore. Et s'ils fautent, s'ils se disqualifient, eh bien, on ne pourra pas détruire, Hachem ne pourrait pas, parce qu'il a, il ne veut pas, quoi. Il pourrait pas détruire le Beth Amikdash au lieu de détruire le clan d'Israël, donc ça détruirait le clan d'Israël. Et c'est aussi la raison pour laquelle David, qui lui aussi, s'il avait construit, ça aurait aussi été indestructible. Lui, c'est pour d'autres raisons qu'il ne le construit pas. C'est parce que une des conditions, on en a parlé déjà, une condition pour que le Mashiach puisse venir, c'est qui est le Shalom. Le Rambam, par exemple, pense que la construction du Beth Amikdash, c'est le job du Mashiach. Donc, ce n'est pas le nôtre. Mais les autres qui pensent qu'il faut d'abord construire le Beth Amikdash et après seulement le Mashiach. Alors, construire le Beth Amikdash, ça nécessite quand même toujours le shalom. Et à l'époque de David, il n'y avait pas le shalom. La situation n'était pas stabilisée. Mais elle l'a été à l'époque de son fils. C'est pour ça que c'est Shlomo qui a construit ce que David avait pensé et ce pourquoi il avait mis de côté tous les matériaux nécessaires, etc. Mais la construction effective, c'est Shlomo qui l'a fait. Parce que lui, il avait le shalom. Dans le pays, il y avait le shalom, alors qu'il n'y avait pas le shalom au temps de David. Alors ça, c'est juste pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas entrer, à part le fait que Hachem lui a dit, c'est pas toi qui peux entrer. Et bien, Israël. Mais ce qui était important, c'est qu'il lui a enlevé la Kehuna. Alors, c'est toujours le même problème, c'est que dans la théorie, c'est toujours il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On est à la fois roi et Kohen Gadol. Est-ce que devait être Reuven? Il n'a pas été, lui, il n'était rien du tout. Mais après, la royauté, c'est Yehuda, et la Kehuna, c'est Lévi. Donc, c'est le nouveau séparation. Ici aussi, ça aurait dû être Moshe qui a les deux. Ça s'est pas fait. C'est Moshe, il a la royauté, et Aaron, la Kehuna. C'est comme si, en théorie, ou je ne sais pas quelle raison, tous les pouvoirs devaient être dans la main du même, Mais concrètement, c'est jamais comme ça. Concrètement, c'est pas comme ça. Il y a eu un moment donné où c'était un peu comme ça, et ça s'est très mal fini d'ailleurs, c'est à l'époque de Hashmonaïm. Hashmonaïm, qui était Kohanim, ils ont pris la Melucha, ils ont pris la royauté. Alors c'est vrai que, comme dit Rambam, il y a eu 200 ans à peu près de royauté juive, mais on sait comment ça a fini, on est là. Donc mon cher Avinu n'a pas la Kehuna. Mais c'est un peu étrange que puisqu'il ne devait pas être Kohen Gadol, pourquoi il a été Kohen Gadol à l'inauguration pendant 7 jours? Parce qu'on peut le lire de deux manières qu'il a été Kohen Gadol pendant 7 jours. C'est comme si Hachem lui disait, bon, c'est une expérience d'être Kohen Gadol. Ben, tu vas la faire pendant 7 jours. D'un autre côté, c'est quand tu as eu cette expérience, ne plus l'avoir après, c'est terrible. Donc, c'est un peu étrange que Hachem ait. Là, il faudrait dire que c'est la première explication qui est la bonne. On est obligé de dire que comme Hachem fait les choses pour le bien, c'est ça la bonne, mais c'est difficile. Je ne sais pas ce que vous entendez, mais il me semble que c'est assez difficile. En tout cas, plus difficile que ce qu'il lui avait. N'a pas goûté du tout, ok, tu sais pas, mais au moins, pas de nostalgie de ce que j'aurais pu avoir et en sachant ce que j'avais. Si, bon, c'est vrai que si, sinon, il aurait pu se demander qu'est-ce que c'est, il aurait peut-être fantasmé, si on peut parler comme ça chez Moshe Rabbeinu, sur Moshe Rabbeinu, fantasmé plus terrible que ça n'était en réalité. C'était terrible, mais lui, il l'aurait peut-être vécu comme super terrible. Donc, il y a cette situation où il faut fabriquer des vêtements pour que Aaron puisse jouer son rôle de Kohen Gadol. Vous vous souvenez que les Nessiim, les princes, ils ont apporté en dernier et ils ont apporté les pierres précieuses, amené Shoham, amené Milouim. Donc ils ont apporté les pierres précieuses et sur le vêtement du Kohen Gadol, il y a une espèce de pectoral, quoi, sur lequel il y a 12 pierres précieuses qui sont enchâssées. Il y a aussi des pierres précieuses sur les épaules, c'est-à-dire les bretelles qui tiennent le éphod. Au niveau des épaules, il y a une pierre sur chaque épaule. Et sur chacune de ces pierres, il y a 6 noms de tribus à droite et 6 noms de tribus à gauche. Donc les noms de tribus. Donc Aaron, quand il portait en permanence les noms des tribus, donc quelque part, c'était comme si il était bien clair, on répète l'idée que Aaron représente toutes les tribus. C'est vrai que lui, il appartient à une tribu particulière, qu'il a été choisi, lui, etc. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'en réalité, il est au service du clan Israël. Même Moshe Rabbeinu est au service du clan Israël. Pendant les 38 ans des pérégrinations dans le désert, Moshe Rabbeinu n'a pas de prophétie. Hachem ne lui parle pas. Parce que le clan Israël ne mérite pas qu'Hachem lui parle, alors il ne parle pas à Moshe. Pas que Moshe a continué sa conversation avec Hachem. Puisque le clan Israël ne mérite pas, alors Moshe n'a pas de prophétie. Donc il ne faut pas qu'Aaron oublie qui il est au sens qu'est-ce qu'il représente. Puis un moment où, donc ces pierres, elles représentent aussi les 12 tribus. Et comme vous savez, quand le Cohen Gadol voulait interroger Hachem, il passait par l'entremise de ce pectoral-là, posait sa question, et la réponse, elle venait grâce à certaines de ces pierres qui s'illuminaient et qui correspondaient chacune à une lettre de l'alphabet, de cette manière. Et donc, ce n'était pas complètement terminé parce qu'il fallait savoir fabriquer le mot avec les lettres. On a un très grand exemple de ce que ce n'est pas toujours évident, dans la mesure où, comme je pense que vous savez que quand Hannah, la mère de Shmuel, le prophète Shmuel, elle est restée de nombreuses années sans avoir des enfants, elle priait, etc. Et puis une fois, elle était allée dans le Mishkan, quand les Israélites sont entrés en Eretz Yisrael portatif, il a été stabilisé à quelques endroits, mais à un moment donné, à Shiloh, il y avait ce Mishkan, et il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait, ce Kohen Gadol s'appelait Eli, mais c'est pas le raccourci d'Eliaou, ça s'écrit Ain, Ain Lamed Yud, hein? Pas Aleph Lamed Yud, mais Ain Lamed Yud, Eli à Kohen. Et Hana, elle est venue au Mishkan, dans ce Mishkan, et elle a prié. Et sa façon de prier, c'est la façon dont nous prions aujourd'hui. C'est Hana qui a inventé la façon de prier à voix basse, comme ça, en prononçant les mots, mais à voix basse, et comme elle pleurait en même temps, etc. Et lui, il a pensé qu'elle était sous. Et bon, il a voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Il a interrogé ça s'appelle Urim et Thummim. Il a interrogé et il a eu une réponse avec des lettres qui lui ont permis d'écrire qu'elle était Shikoura. Et donc, il l'interprétait comme ça parce qu'il le pensait, probablement. Mais avec ces mêmes lettres, on peut faire un autre mot. Un mot qui était complètement positif. Je vous laisserai deviner, hein, c'est les 4 lettres. Et donc, quand il a eu ça, il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs, quoi. Alors elle lui a dit, je suis pas sourd, je pleure, alors elle lui a expliqué que je prie pour avoir un enfant, etc. Et Hana, quand elle priait pour avoir cet enfant, elle priait en disant à Hachem, envoie-moi un enfant, et si tu m'envoies un enfant, je le consacrerai à toi. Je mettrai au service de. Et c'est ce qu'elle a fait quand il a été sevré. Elle l'a amené chez Élie en stage. Donc là, on voit un exemple d'erreur dans l'interprétation de. Ça veut dire tout est complètement joué parce qu'après, les lettres donnent un ensemble de lettres et tu peux en former, tu peux former plusieurs mots. Et il s'agit de savoir lequel des mots correspond. D'ailleurs, l'enfant pour lequel elle priait, il est effectivement venu au monde, enfin. Et ça a été le prophète Shmuel qui était le plus grand prophète qu'on ait jamais eu. C'est lui qui a oint à la fois Shaul et David. Ça, c'était Shmuel. Donc, ça, c'était l'histoire de Hana. Donc, ça, c'est juste un exemple de l'ambiguïté qui restait encore à régler, même quand on pouvait interroger. D'un autre côté, quand les Bnei Israël ont procédé à la conquête du reste d'Israël, ils avaient un interdit d'utiliser le butin. Ils n'avaient pas le droit de prendre le butin. Pourquoi? Parce que quand tu prends le butin, c'est comme si toute la guerre était faite pour le butin. C'est la même chose dans Megillat Esther. Ou Vabizal, ou Shalkhu et Yadam. Pour qu'on ne se trompe pas, on n'est pas en train de faire une guerre pour prendre un butin. On fait une guerre là-bas pour se défendre parce que vous vouliez nous tuer, alors on fait une guerre de défense. Et là-bas, c'est une guerre, il fallait chasser les idolâtres qui ne voulaient pas se convertir, etc. Et il y a eu alors, avant les batailles, Yoshua, qui était donc lui, c'est lui qui dirigeait les clans d'Israël, il a interrogé Hachem, est-ce qu'il faut faire cette bataille-là? Hachem a dit oui. Il a fait la bataille. Et ça s'est mal passé, et il y a eu des morts. Alors Yoshua, il s'est tourné vers Hachem, et il a dit, je comprends pas. Je t'ai demandé s'il faut faire la bataille, tu dis oui, et on a des morts après. Alors Hachem lui a dit, a répondu, Chata Israël. Israël a fauté. C'est ça que vous avez perdu. Alors Yoshua a dit, Mi Chata, qui a fauté? Alors Hachem a dit, je suis pas un délateur, je vais pas te le dire. Alors Yoshua a interrogé Ourim et Thummim. Parce que ça, c'est pas interroger Hachem au coup. Ça fait partie c'est les instruments du clan d'Israël. C'est comme si on avait des archives ou un processus de, etc. Donc, il a interrogé et il a su. Il y avait une personne qui a fauté. Parce qu'il y avait une seule personne qui a fauté, et bien Israël a perdu une guerre. Donc là, on voit que interroger les Urim et Thummim, ce n'est pas la même chose que de demander à Hachem une réponse. C'est pourtant bien sûr Hachem qui inspire la réponse des Urim et Thummim. Mais Urim et Thummim, c'est quelque chose qui a été donné au Bnei Israël pour le quotidien. C'est des ustensiles quotidiens du. À un moment donné, je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, il y a une des pierres qui a sauté. Les pierres, elles étaient enchâssées, il y en a une qui a sauté, c'est la pierre de Binyamin. Et le Ratam Sofer, il explique, un peu difficile, en disant que. En fait, le clan d'Israël, normalement, Il devrait être Bechalom, complètement. Et la pierre qui a sauté, c'est Binyamin. Parce que Binyamin, en quelque sorte, il ne pouvait pas rester avec les autres. Pourquoi il restait pas avec les autres? Parce que les autres, ils étaient Bab Shalom, dans la mesure où il y avait, fils de Yosef, il y avait Yosef, quoi, en gros, et ses frères. Et entre eux, c'était pas le shalom en réalité. Binyamin dit, moi, je n'ai rien à faire. Lui, il était le seul qui était complètement en dehors de ce problème de la rivalité entre Yosef et les frères. Et donc, lui, il supportait pas ça. Ça veut dire Khatam Sofer. Il y en a qui expliquent que c'était mauvais, ben, c'est lui qui est sorti, etc. Mais c'est très simple. C'est parce que normalement, il devait y avoir le shalom, mais il n'y a pas le shalom. Donc, Binyamin, c'est insupportable. Il ne faut pas rester dans un endroit, il ne faut pas rester avec les autres s'il n'y a pas de shalom. Donc, ça, c'est l'importance de ce shalom, qui est la condition nécessaire pour qu'on puisse construire le Beth Amikdash, pour que le Mashiach puisse venir, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce parasha de, vous savez.